Avec Antoine Mercier, la seconde partie de la Grande Table. Et comme chaque jour, du lundi au vendredi, un point de vue développé par son auteur. Aujourd'hui, l'Italien Enzo Traverso, professeur à l'université Cornell à New York, spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle du XXe siècle. Il est déjà l'auteur de l'histoire comme champ de bataille et de la fin de la modernité juive. Pour la revue Vacarme, il disait « l'histoire qui se raconte dans ses écrits » ou la revue Vacarme plutôt disait de vous « l'histoire qui se raconte dans ses écrits, c'est aussi celle d'une position paradoxale, celle de l'intellectuel, entre immersion et retrait, injonction politique et clarté scientifique, la tentation du combat et celle du bilan. » Cette formule vous résumez pas si mal, Enzo Traverso. Cette fois-ci encore, vous oscillez entre l'histoire et l'engagement. Dans Mélancolie de gauche, publié à La Découverte, vous vous interrogez sur ce sentiment politique propre à la gauche. Où est-il né? Signe-t-il la fin des idéologies ou l'espoir d'un renouveau? La mélancolie, cet abattement, peut-elle redonner la force d'agir? Sur quel imaginaire politique s'appuyer? Au lendemain de la démission de Matteo Renzi en Italie, au lendemain du renoncement de François Hollande en France, du retour de la droite au pouvoir en Espagne, une question plus qu'actuelle, la grande leçon à retenir de votre essai, l'histoire du socialisme est jalonnée de défaites, ankylosée, les gauches européennes peuvent rebondir si elles retrouvent la force d'une tradition cachée pour lutter contre la passivité et surmonter les défaites de l'histoire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mélancolie n'est pas un aveu d'impuissance. Enzo Traverso, bonjour.
Bonjour.
Vous pensez l'histoire en termes de cycles, les périodes historiques comme des laboratoires. Dans quel moment sommes-nous? Autrement dit, c'est la question qu'on pose à nos invités en ouverture de cette deuxième partie de la Grande Table. Comment allons-nous?
Plutôt mal, je dirais. Et le journal que je viens d'écouter le confirme, me semble-t-il. Mais en même temps, il n'y a aucune raison de désespérer parce qu'il y a aussi autour de nous pas mal de signes encourageants qui donnent de l'espoir pour les années à venir.
Quels sont ces signes pour vous ?
Les signes sont multiples. Je pense à tous les mouvements sociaux qui ont vu le jour depuis une dizaine d'années désormais dans plusieurs pays. En France, la nuit debout, il y a quelques mois seulement. Crée une sorte de, qui configure un paysage qui est en train de se transformer et dans lequel quelque chose de nouveau est en train d'apparaître. Quelque chose de nouveau qui n'a pas encore un profil défini. Un mouvement qui se cherche sur le plan politique, intellectuel. Mais il s'agit de plusieurs signes au niveau global. Si on pense à ce qui s'est passé en Europe, Los Indignados en Espagne, qui a déjà créé une nouvelle formation politique qui joue un rôle important au-delà des Pyrénées, mais il y a aussi, nous avons eu Occupy Wall Street aux États-Unis, il y a eu les révolutions arabes qui ont naufragé, mais qui sont un symptôme d'une transformation qui s'opère sous nos yeux qui fera certainement du 21e siècle quelque chose de très différent par rapport au clivage politique, idéologique, intellectuel que nous avons connu au cours du 20e siècle, mais qui nous donne à penser que il ne faut pas se résigner parce que tout est ouvert, tout est possible.
Enzo Traverso, on recevait il n'y a pas très longtemps à votre place l'un de vos compatriotes, Raffaele Simone, le linguiste italien, l'auteur du Monstre doux, qui revenait notamment sur la droitisation du monde et des esprits. Et il n'était pas surpris, lui, de la victoire de Donald Trump. C'était peu après, au lendemain de cette élection américaine. Vous plongez dans la mémoire de la gauche et vous évoquez cette mélancolie de gauche qui serait quoi? Une valeur propre à la gauche?
Je voudrais préciser d'emblée que mon livre n'a pas une vocation thérapeutique. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit cet essai pour prescrire une recette à une gauche malade et pour la soigner. Je n'ai pas cette ambition et je n'ai pas ni l'autorité ni la capacité de le faire.
Vous l'avez écrit pour quoi alors ? Pour contrer votre propre mélancolie ?
Je suis un historien qui s'occupe d'histoire des idées, d'histoire intellectuelle et qui a un engagement politique à gauche. Et donc, j'ai évidemment écrit ce livre avec passion et empathie et avec un souci pour l'état lamentable dans lequel se trouve la gauche au niveau global.
Alors, il faut aujourd'hui quand même nous dire, parce que pour l'instant, vous n'avez pas mis de contenu vraiment à cette mélancolie de gauche. Et j'ajoute donc le sous-titre aussi important, la force d'une tradition cachée. Donc, il y a une tradition cachée à gauche qui a une certaine force parce qu'il y a eu des échecs et que tout cela peut éventuellement revenir, ressurgir. Expliquez-nous peut-être généralement là, votre thèse, comme ça on pourra partir de choses bien établies.
Je pense que cette mélancolie de gauche, je ne l'ai pas inventée. Cette mélancolie de gauche a toujours existé, a accompagné l'histoire des mouvements socialistes, révolutionnaires, communistes, depuis le début du 19e siècle, ou même avant, depuis la Révolution française. Mais cette mélancolie de gauche, la mélancolie est un état d'âme, est une émotion, un affect. Et cette mélancolie a toujours existé parce que l'histoire des mouvements socialistes et révolutionnaires est une histoire de défaite, beaucoup plus que de succès et de victoire. Donc cette mélancolie a toujours existé, mais très souvent a été refoulée ou censurée. Elle n'a jamais été reconnue, elle n'a jamais été vraiment pensée. Parce que cette mélancolie était sublimée ou surmontée par une vision de l'histoire qui a dominé l'histoire de la gauche pendant deux siècles et qui était une vision téléologique de l'histoire. On savait où on allait. Notre action avait une perspective, il y avait un horizon qu'on peut appeler un horizon utopique, qui a pris des formes différentes au cours de ces deux derniers siècles, mais qui était là et qui faisait que on pouvait se remettre debout après une défaite et au cours du XXe siècle, depuis deux siècles, la gauche a connu des défaites catastrophiques, des défaites tragiques qui se sont soldées par des massacres. Et donc, cette mélancolie était un travail du deuil.
Pourquoi cette visée téléologique avait-elle comme conséquence d'enfouir la mélancolie ? C'est ce que vous dites, si j'ai bien compris. Au contraire, on peut penser qu'elle la réactivait précisément, positivement, pour espérer, continuer d'espérer.
Je pense que cette visée utopique permettait de surmonter,
de se relever des défaites,
permettait de se relever et donc faire le deuil des défaites essuyées, des défaites, des revers subis. Et donc la mélancolie existait, mais elle était censurée. En France, il y avait cette formule célèbre qui était tout le temps répétée. Il ne faut pas désespérer Billancourt. Et donc, il fallait toujours enjoliver ou présenter les choses sous une lumière encourageante et positive. Mais cette mélancolie de gauche a toujours existé. Dans mon livre, je consacre au moins deux chapitres à reconstituer une littérature, et beaucoup plus qu'une littérature, une iconographie, une production esthétique qui faisait le deuil des défaites. Il y avait une culture de la défaite qu'il faut savoir qu'on peut historiciser aujourd'hui.
Cette mélancolie, vous la définissez plutôt par la négative, parce qu'elle n'est pas, ça n'est pas un repli dans un univers clos de chagrin et de souvenirs. Elle est à l'opposé pour vous du stalinisme et de son récit épique. C'est en somme la doublure dialectique de l'extase révolutionnaire où tout devient possible, je vous cite. Et puis enfin, cette mélancolie n'a rien à voir avec le remords ou la repentance. Elle est causée par le poids de la défaite et de la perte et prend souvent la forme de l'exil. Jusqu'à ce que le mur de Berlin chute. Le tournant pour vous, c'est vraiment l'échec du communisme. Soudain, la gauche perd de vue cet horizon rêvé de la victoire et perd tout court son caractère combatif. C'est le début du désenchantement et de la passivité. La gauche a toujours été plus marquée pour vous, Enzo Traverso, plus assommée par l'histoire et ses contre-coups que la droite.
Oui, je pense. Et d'ailleurs, il y a des penseurs révolutionnaires, marxistes, anarchistes, qui ont su s'inspirer aussi et qui ont, comment dire, noué, entre guillemets, un dialogue avec des penseurs de droite. Dans mon livre, j'essaie de reconstituer l'idée d'une histoire repensée du point de vue des vaincus. Et c'est une idée qui est au cœur de la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin, par exemple, un auteur très connu et très lu aujourd'hui. Mais c'est une idée qui traverse aussi l'œuvre de plusieurs penseurs de droite, même conservateurs ou réactionnaires. C'est une idée qui a été élaborée par Carl Schmitt et puis par un grand historien des concepts comme Reinhard Koselleck. Et par exemple, Tocqueville était un penseur conservateur, un libéral conservateur, mais qui avait pensé la défaite, qui pensait comme un aristocrate conscient d'appartenir à une couche sociale, l'aristocratie, qui avait fait son temps et qui n'avait plus d'avenir historique devant elle.
Et vous juste pour préciser, vous avez effectivement toujours, vous, beaucoup travaillé, Enzo Traverso, sur cette nuance, opposition entre les victimes et les vaincus. Cette mélancolie de gauche peut être fructueuse pour vous à certaines conditions, si elle est reconnue et assumée en évitant les stratégies habituelles du contournement, les ruses classiques du refoulement, écrivez-vous. Elle vit les tragédies liées aux batailles perdues du passé comme un fardeau et une dette qui contiennent aussi une promesse de rachat. Elle implique en gros de pas sacraliser les victimes et de réhabiliter l'action des vaincus. Et là, on en revient à un thème qui vous est donc cher, cette mémoire des vaincus qui est occultée par celle des victimes. Ils ont perdu, mais ils se sont quand même battus. C'était pour vous des militants politiques, hein, ces vaincus, des sujets de l'histoire. Et pourtant, l'histoire en a fait des fantômes, quelque part. Revenons juste au terme employé, je ne sais pas si vous en souvenez, par Lionel Jospin en 1995.
Pourquoi n'aurions-nous pas collectivement, et n'aurais-je pas le droit, moi, comme candidat à l'élection présidentielle, le droit d'inventaire? N'est-ce pas cela l'attitude de la raison? N'est-ce pas cela l'attitude de l'esprit critique et de l'esprit de progrès?
Le droit d'inventaire convoqué par Lionel Jospin en 95, bilan des deux septennats de François Mitterrand, il voudrait se l'autoriser, sauf qu'à peine entamé, il est aussi vite abandonné. Vous le disiez, 89, la chute du mur a constitué un tournant. Depuis, la gauche a toujours eu du mal à digérer ses défaites et à en tirer les leçons. Pourquoi ?
Mais parce que après 1989, nous sommes entrés dans le 21e siècle. Et à la différence des deux siècles antérieurs, le 21e siècle naît de l'effondrement des utopies qui étaient nées depuis la Révolution française, le socialisme et puis le communisme au 20e siècle. Et dans un monde sans utopie, sans un horizon utopique, on porte le regard sur les victimes qui apparaissent un peu comme les héros du passé. Et cette dialectique historique qui a encore une fois été très bien défini par Reinhard Kozel, cette dialectique historique qui unit le passé à l'avenir. Le passé comme champ d'expérience et le futur comme horizon d'attente qui serait symbiotiquement lié l'un à l'autre. Eh bien, cette dialectique s'est brisée en quelque sorte. Et nous sommes entrés dans une... ce qu'on appelle un régime d'historicité présentiste, c'est-à-dire un monde qui est comprimé dans le présent, qui n'arrive pas à se projeter dans le futur. Et du coup, cette mélancolie qui autrefois pouvait être surmontée dans une perspective politique, intellectuelle, utopique, cette mélancolie devient visible et devient pensable.
Expliquez-nous quand même, parce que on peut avoir du mal à comprendre, puisque c'est un peu paradoxal a priori, de voir comment cette mélancolie, l'expression de cette mélancolie que vous décrivez, peut être précisément le vecteur d'une victoire future. Alors qu'on a l'impression que c'est justement la conséquence de toutes les défaites dont vous parliez précisément. Alors en quoi la mélancolie elle-même peut être tournée en sentiment ou en avenir positif, si ce n'est radieux?
Oui, autrement formulé, en quoi faire œuvre de mémoire, se tourner vers le passé, peut nous aider à nous projeter, ou aider la gauche à se projeter dans un horizon nouveau et un peu plus glorieux en se replongeant dans ses défaites?
Encore une fois, je ne propose pas la mélancolie comme une recette thérapeutique pour une gauche malade. Je ne me baladais pas place de la République pendant la nuit debout pour calmer les enthousiasmes des jeunes qui se mobilisaient pour leur
non,
dire
mais quand même, la mélancolie est mélancolique. Pas, mais quand même
mais,
un aspect positif.
La mélancolie est un trait émotionnel d'un travail du deuil. Et un siècle de guerre, de génocide, mais aussi de révolution qui se sont soldés par des défaites, engendre un travail du deuil. Un travail du deuil qui est nécessaire. Et la mélancolie accompagne ce travail du deuil. Et dans un monde sans utopie, dans lequel on ne peut pas s'accrocher à des nouvelles perspective, eh bien, cette mélancolie peut devenir une forme de résistance. Un travail du deuil accompli, dans un monde dans lequel on n'arrive pas à élaborer ou dans lequel n'émerge pas un nouveau projet, ce travail du deuil accompli pourrait paradoxalement déboucher dans une réconciliation avec l'ordre dominant. Et donc, je pense que cette...
Réconciliation avec l'ordre dominant, c'est-à-dire...
Oui, les révolutions ont échoué, et il ne reste que s'accommoder du capitalisme, des relations de domination qui existent dans nos sociétés, du monde global.
Donc la mélancolie empêcherait précisément
Oui, je pense que la mélancolie peut être une forme de résistance. Mais encore une fois,
comment la transformer en projet ?
Je ne suis pas le candidat de la gauche mélancolique aux primaires de la gauche. C'est un travail d'histoire. J'ai essayé de reconstituer un paysage qui, me semble-t-il, était invisible. Quelque chose que dont tout le monde se rend compte a existé, mais qui n'avait pas été... dont on n'avait pas retracé la trajectoire.
1848, la Commune, la Ligue spartakiste, le soulèvement du ghetto de Varsovie, le combat de Che Guevara, il y a toutes ces défaites glorieuses dans lesquelles la gauche devrait se replonger ou se référer. Et puis dans cette idée de surmonter la défaite, vous êtes replongé dans les écrits de penseurs comme Walter Benjamin, de Karl Marx, ou ceux de Daniel Ben Saïd, ou de militants comme Rosa Luxembourg, Louise Michel, Léon Trotsky, Auguste Blanc, Blanqui, pour essayer d'y retrouver les ingrédients d'un espoir. En même temps, c'est là encore assez paradoxal, vous mettez en exergue de votre ouvrage une citation de Daniel Ben Saïd qui laisse très peu d'espoir quant à elle, qui date de 91. Dans le match du siècle entre socialisme et barbarie, la seconde a pris quelques longueurs d'avance. Nous entrons dans le 21e siècle avec moins d'espoir que n'en avaient nos aïeux au seuil du 20e siècle. Mais vous le cherchez, cet espoir. Alors en vous replongeant dans tous ces textes, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
J'ai retrouvé une grande résilience. J'ai retrouvé plusieurs générations de combattants, de militants, de révolutionnaires qui ont été capables de se relever. Et je pense que les blessures que l'histoire leur a infligées ont laissé des traces et ont produit engendré ce regard mélancolique dont je parlais, qui est une espèce de tonalité qui traverse une littérature, mais aussi une esthétique de la gauche.
France Culture, il est 13h17.
France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et notre invité aujourd'hui est l'Italien Enzo Traverso, professeur à l'Université Cornell à New York, spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle du XXe siècle, auteur en cet automne de Mélancolie de gauche, publié à la Découverte. Enzo Traverso, vous nous disiez que nous sommes entrés dans un régime d'historicité présentiste, un monde qui n'arrive plus à se projeter dans le futur. Vous disiez également que dans ce livre, vous essayez de repenser l'histoire du côté des vaincus. Et ben, on va y aller justement du côté des vaincus, quoique plutôt des défaitistes actuels, avec un petit aperçu de l'état des gauches européennes.
Ils sont plusieurs dizaines à s'être rassemblés devant le siège du Parti Socialiste Espagnol. Un nom pour affirmer leur volonté de faire barrage à la formation d'un gouvernement dirigé par la droite. Une position qui était celle soutenue par Pedro Sanchez, le leader socialiste, mis en minorité par le comité fédéral du parti. Le premier secrétaire a finalement démissionné samedi. Le résultat du vote est opposé à la proposition que j'avais faite au comité fédéral. Par conséquent, comme je l'avais dit hier, si ma proposition ne l'emportait pas, je ne peux alors gérer une décision dont je n'ai pas voulu.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Matteo Renzi jette l'éponge. Le chef du gouvernement italien a annoncé sa démission après la publication des premiers résultats du référendum sur son projet de réforme constitutionnelle. L'expérience de mon gouvernement s'achève ici. Je crois que pour changer ce système politique, dans lequel les dirigeants, toujours les mêmes, tournent sur différents postes sans changer le pays, on ne peut pas faire semblant, une fois de plus, que rien n'a changé. Les dirigeants ne changent pas leurs habitudes et ne quittent jamais leur siège. Je voulais supprimer des sièges en trop, je n'ai pas réussi et donc le siège qui saute, c'est le mien.
La poltrona che salta è la mia.
Enzo Traverso, il y a des particularités nationales en France, en Espagne, en Italie, qui expliquent les défaites actuelles de la gauche. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment qu'il y a un grand courant d'air froid qui traverse le monde de la gauche aujourd'hui ? Peut-être que le XXIe siècle, tout simplement, n'est plus le temps de la gauche et qu'il signe la fin de la gauche ?
Peut-être, mais le 21e siècle, certainement, sera marqué par de nouvelles tentatives de changer le monde tel qu'elles ont existé depuis toujours. Peut-être. Alors, tout dépend si on définit la gauche en termes topologiques. Manuel Valls se situe à la gauche de François Fillon. Bon, ça c'est une définition politologique de la gauche, mais dans mon livre, j'essaye de définir la gauche en termes ontologiques. Les mouvements qui se battent pour l'égalité, pour transformer le monde. Et donc, les défaites qui sont à l'origine de la mélancolie de gauche et qui fait l'objet de mon livre sont la Commune de Paris.
C'est pas le renoncement de François Hollande, effectivement.
Ce n'est pas la défaite électorale d'un parti socialiste européen aujourd'hui. Alors, ça, c'est un tout autre domaine.
C'est pas cette gauche institutionnalisée, en tout cas pour vous aujourd'hui, Antoine Mercier.
Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire, oui, c'est une mélancolie qui remonte à il y a 30 ans, parce que, en 1981, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République avait soulevé de grands espoirs et s'inscrivait encore dans cet horizon utopique, un désir de changer le monde sous des formes différentes. Mais depuis, c'est des alternances électorales. On peut voter pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy, mais François Hollande n'a jamais incarné, n'a jamais été porté par un mouvement social qui voulait changer le monde. Donc cela me semble quelque chose d'absolument évident.
Alors vous dites qu'il n'y a plus d'utopie, effectivement, notamment à gauche. On a l'impression qu'il faut s'adapter à ce qui se passe et pointe à la ligne. Et d'un autre côté, vous nous avez dit tout à l'heure que ce qui vous appeliez la téléologie du mouvement socialiste, notamment, était peut-être quelque chose qui empêchait les affects de mélancoliques d'avoir des effets positifs sur la survenue, précisément, d'un avènement nouveau, d'une transformation attendue. Alors, la question que je vous pose est de savoir si cet état dans lequel nous sommes de présentisme où le projet s'est arrêté est plus davantage propice précisément à la survenue d'une nouvelle transformation possible pour la gauche, c'est-à-dire l'arrivée d'un temps où la transformation se fera d'une façon plus spontanée, moins décidée, moins rationalisée, un surgissement de ce qui pourrait se produire. Est-ce que c'est plus propice à cela et est-ce que c'est pour ça que la mélancolie va peut-être servir de moteur à cette apparition-là?
Oui, il y a un très beau livre que Georges Didier Huberman a publié il y a quelques mois, qui s'intitule « Si j'ai bonne mémoire, peuple en larmes, peuple aux armes », où il étudie cette transition d'un état mélancolique, le deuil qui suit un revers, une défaite. Il analyse un film, le cuirassé Potiomkin de Eisenstein, et comment ce deuil devient le déclencheur d'une révolte. Alors, mon livre se penche plutôt sur le deuil qui, non pas le deuil qui déclenche une révolte, mais le deuil qui suit la défaite. Cette mélancolie peut parfaitement laisser la place à des nouvelles perspectives et à des nouveaux combats. Alors, il n'y a pas je n'ai jamais défini la mélancolie de gauche comme une forme de résignation à un changement impossible. Et donc, je suis convaincu qu'au XXIe siècle, de nouvelles utopies surgiront.
Et peut-être réussiront,
mais elles seront certes différentes par rapport à celles que nous avons connues dans le passé.
Mais ça passera pas par la politique traditionnelle, c'est ça que vous avez l'impression aujourd'hui?
Je ne pense pas, mais je pense que cela inévitablement affectera la politique traditionnelle, remettra en cause des pratiques, des structures, des modes de fonctionnement, des cultures, de la politique traditionnelle. Je suis profondément convaincu de cela. Mais je fais le constat que jusqu'à présent, cette absence d'un horizon utopique a plombé tous les mouvements qui se sont manifestés. Les révolutions arabes ont exprimé des potentialités énormes, sont parvenues à abattre des dictatures militaires, mais elles ne savaient pas où aller, elles n'avaient pas de capacité de se projeter dans l'avenir.
En même temps, les autres savaient où aller avant et ils sont quand même tombés dans le piège des défaites.
Certes,
ça les a pas fait gagner pour autant.
Certes, mais alors dans mon livre, je cite Primo Levi et Jean Améry qui dit bon. Les communistes déportés à Auschwitz avaient une capacité de résistance supérieure aux autres déportés parce qu'ils croyaient. Et ils savaient que leur destin individuel s'inscrivait dans un destin collectif qui les dépassait. Et donc, je pense que la culture de gauche a été capable de donner cette force. Aujourd'hui, je crois que cette capacité a connu un déclin considérable.
À propos de votre livre, le philosophe français Michel Fossel écrit « Ce n'est pas parce qu'un idéal s'est fourvoyé que les désirs qui le motivaient ont cessé d'être valables, puisqu'on est sur la question de la temporalité. Vous concluez, Enzo Traverso, sur ces mots, c'est par les défaites que l'expérience révolutionnaire se transmet d'une génération à l'autre. Alors à quelle échéance il faudra attendre encore que passe au moins une génération pour espérer que les leçons soient tirées des échecs actuels, des printemps arabes, de Nuit debout de...
Mais une génération est passée. Le tournant historique que j'assume un peu comme césure dans mon livre, c'est 1989. Une césure symbolique, mais c'est la fin quand même de la guerre froide, la fin du XXe siècle et la prise de conscience de la fin d'un cycle. Le communisme du XXe siècle n'a pas d'avenir aujourd'hui. Donc il faut penser à autre chose. Et il y a une génération qui s'est écoulée depuis. Et tous les mouvements auxquels on a fait allusion, précisément, expriment cette recherche de nouvelles perspectives, de nouvelles formes de mobilisation, de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles formes de sociabilité, de communication, et donc, certainement, de nouvelles utopies vont surgir.
Antoine, merci. Un dernier mot.
Comment sortir du présentisme finalement dans la vie de tous les jours. Je sais bien que vous n'avez pas de programme politique, vous nous l'avez dit, mais c'est un état d'esprit. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire dans quel état d'esprit vous êtes-vous par rapport à ça?
Le présentisme est un monde qui marche à un rythme infernal, à une vitesse extrême et paroxystique, mais qui n'a pas, je dis, de structure prognostique, et qui est incapable de se projeter dans l'avenir, et donc où tout donne l'impression de changer pour que rien ne change. Alors ces mouvements-là, qui posent au centre la question de l'égalité, veulent bloquer, faire sauter ce système, le remettre en cause radicalement. Et je pense que c'est là leur force.
Compressé encore plus par le temps court de la politique aujourd'hui, rythmé par des échéances électorales de plus en plus rapprochées. Merci beaucoup Enzo Traverso. Mélancolie de gauche, la force d'une tradition cachée, vient de paraître aux éditions La Découverte. Aux manettes aujourd'hui, Perret Legras avec David Federman, émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc, nos lutins, sur le fil des réseaux sociaux Inès Magriff. Je vous rappelle que La Grande Table se tweet pendant ce like et ce podcast après coup sur France Culture. Bel après-midi à tous.